Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Eh bien, bonjour Nathalie.
Bonjour Jacques.
On retrouve Nathalie du fond de sa Bretagne, sous la tempête, comme d'habitude. Pardon, je suis méchant. Allez, donc on retrouve
enfin,
Nathalie...
Aujourd'hui, il ne fait pas très beau, j'avoue.
Non mais Nathalie, elle nous dit il n'y a pas de tempête en Bretagne, mais il y a tempête sous un cerveau, parce que elle nous dit l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, et maintenant je peux le démontrer. Alors comment elle peut nous le démontrer, Nathalie?
Moi, on est des chercheurs, oui, en fait, il y a longtemps qu'on sait que les bactéries intestinales, hein, ce qu'on appelle le microbiote, ont une influence sur beaucoup de fonctions de l'organisme, et notamment certaines fonctions du cerveau, puisque ces bactéries, en fait, en mangeant les non-nutriments, elles fabriquent ou pas différents métabolites, et certains sont intéressants pour le cerveau, comme le tryptophane, par exemple. Et là, il y a une étude qui montre des grosses différences entre les microbiotes, donc les bactéries intestinales, des personnes qui sont en dépression sévère et des autres personnes qui n'ont pas de dépression. Donc déjà, première chose, si ces différences sont retrouvées vraiment à grande échelle, peut-être qu'on pourra en faire un biomarqueur, ce qui serait intéressant pour affiner le diagnostic. D'autre part, le but, évidemment, c'est de voir si on peut corriger ces bactéries qui manquent et ces bactéries qui sont en trop pour avoir un microbiote qui se rapproche de la normale. Et surtout, est-ce que ça peut avoir une influence sur la dépression? Donc, c'est intéressant parce que, par exemple, chez les personnes qui souffrent de dépression, ces chercheurs ont trouvé des niveaux très élevés de bactéroïdes. Et les bactéroïdes, ce sont des bactéries qui entraînent de l'inflammation. Or, on sait que l'inflammation dans le cerveau, ça peut générer de la dépression. Par contre, il y avait d'autres bactéries qui sont comme Blotia et Eubacterium, qui, elles, étaient à des niveaux trop bas. Et ce sont des bactéries qui sont plutôt anti-inflammatoires. Donc peut-être qu'en apporter par le biais de changements alimentaires, de probiotiques, etc., ça pourrait avoir des avantages. Donc on n'en est qu'au début de cette vaste recherche, mais c'est quand même très intéressant.
Eh bien, c'est mieux en tout cas de prendre des probiotiques, peut-être que les antidépresseurs, bien sûr, sous avis médical, toujours. Alors, ce que l'on mange est important, elle vient de nous le dire, Nathalie, mais alors il paraît que si on ne fait pas attention aux étiquettes, on peut avaler des OGM sans le savoir.
Ben oui, parce que moi, comme beaucoup de gens, naïvement, je pensais que comme la culture d'OGM était strictement encadrée et interdite en France, on était tranquille. Mais en fait, j'ai vu passer une note de la DGCCRF qui dit que sont autorisées une centaine d'OGM à condition qu'elles n'entrent pas dans les semences, mais elles peuvent rentrer directement dans votre alimentation, donc maïs, colza, coton, ça c'est pas que pour l'alimentation bien sûr, soja, betterave, sucrière, ça veut dire que peut-être, si on ne fait pas bien attention aux étiquettes, ou si les étiquettes sont mensongères, ce qui arrive quand même parfois, on se retrouve avec des OGM sans le savoir. Alors c'est un peu dommage, on ne sait pas, après on a le droit de les aimer, de ne pas les aimer, chacun forge son opinion, mais le minimum c'est qu'on soit informé. Et souvent je pense que c'est pas très visible sur l'étiquette. Quand on regarde déjà que les étiquettes sont toutes petites, avec des tas de codes et bien souvent pas très visibles, si en plus on nous rajoute des choses comme ça, c'est pas très sympa.
Alors, comme le dit Nathalie, comme le dit Nathalie et comme on le dit souvent, faites vos courses, pardon, avec une loupe. Voilà, c'est le meilleur moyen de savoir ce que l'on mange.
Alors dis donc, t'as combien de temps toi pour faire tes courses? Parce que si tu fais tes courses avec une loupe, 3 heures après,
elle devient désagréable, Nathalie. Bon, et en même temps, elle va nous casser un dernier principe. Elle nous dit, il n'y a plus de vrais jumeaux. Je ne les ai pas rencontrés.
Non, j'en suis pas là, mais c'est une étude islandaise qui est parue dans Nature Genetics qui m'a interpellée, parce qu'on part toujours du principe que les vrais jumeaux ont exactement à 100% le même patrimoine génétique, et d'ailleurs toutes les études parlent de ça pour étudier les différences et l'impact de l'environnement. On voit quand deux vrais jumeaux grandissent, s'il y en a un qui a des maladies, pas l'autre, on dit c'est forcément l'environnement. Et en fait, ces chercheurs islandais se sont intéressés un petit peu à ce qu'on croyait depuis vraiment très très longtemps pour le coup, et ont étudié le génome des jumeaux avant la naissance, et ils se sont aperçus qu'il y avait déjà des mutations à la naissance. Ils en ont trouvé 5,2 mutations par rapport au génome du jumeau en moyenne, ce qui veut dire qu'ils sont majoritairement identiques, mais il peut y avoir des petites mutations, des petites différences. Et on ne sait pas si ces mutations, justement, elles n'expliqueraient pas les maladies qu'on a attribuées peut-être un peu trop vite à l'environnement. Donc, question, et ils disent même que chez 15% des jumeaux, ça allait bien au-delà de 5,2 mutations, c'était assez important et assez conséquent. Donc, peut-être que ce que nous racontons, ce que racontent les chercheurs sur la part de l'environnement et la part de la génétique a été biaisé par cette information qui manquait depuis des décennies.
Mais faisons confiance aux chercheurs, ils vont bien nous démontrer que peut-être les mutations sont intra-utérines et donc elles sont peut-être liées à l'environnement maternel. Voilà, on n'a pas fini d'en discuter.
Peut-être, on n'a pas fini. Mais il y en a qui étaient très très précoces apparemment.
Ben oui, mais très précoces, elles ne peuvent pas être anténatales. Donc, si elles sont
si elles sont post-conception...
Et voilà, donc on n'a pas fini d'entendre les chercheurs se discuter, notamment sur les plateaux télévisés. Et en ce moment, on a ce qu'il faut. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, à bientôt en Bretagne, alors peut-être.
Merci, Jacques.
Au revoir.
Au revoir.